Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec la saga Mad Max. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Bonjour Lydia, Yanis et Mathis.
Bonjour.
On va parler de Mad Max, de la saga Mad Max. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, il vient d'y avoir Furiosa qui a débarqué au cinéma. On l'a tous vu, on est d'accord ?
Oui.
Et donc, je vous ai demandé une petite mission : revoir les films Mad Max, la saga, les quatre films d'avant. Et on va parler de chacun des films un petit peu. On va commencer par le premier en 1979, Mad Max. De George Miller, bien entendu.
Au volant de son bolide, le cavalier de la nuit sème la terreur sur une route des États-Unis. Une course-poursuite s'engage alors entre les représentants de la loi et le chauffard qui, après avoir provoqué des accidents dramatiques et spectaculaires, périt au volant de son véhicule. C'est le policier Max Rokatansky qui a pu, grâce à son savoir-faire, en venir à bout.
Alors, ce premier film de 1979, déjà, je pense que doit y avoir un sacré recul par rapport à Furiosa.
Oui, mais moi j'ai vu les derniers Furiosa des Furiosa avant de voir les premiers. Et au début, je me suis demandé si je m'étais pas trompé de film, au tout début. Après, non, il y a le côté action qui prend le dessus, puis le côté cette route, en fait, cette ligne droite qui revient dans tous les films. Et après, c'est juste les décors qui changent énormément. On n'est pas dans le désert, on est dans un décor qui ressemble énormément aux États-Unis. Et il y a encore un genre de climat social à peu près humain, même s'il n'est pas totalement, on n'est pas non plus à notre époque. Mais ce n'est pas encore totalement dystopique. Et justement, c'est le préquel un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, j'ai apprécié... ce personnage de Mad Max, on entend parler, mais moi je ne savais pas qui c'était. Et c'est appréciable de voir son parcours, son évolution, les raisons qui l'ont poussé à être Mad Max et pas juste Max. Et donc moi j'ai bien apprécié ce premier opus.
Qui est joué par Mel Gibson.
Exactement.
Quand il était jeune.
Une légende.
Une légende, oui, tout à fait. C'est vrai que ça a fait sa légende Mad Max. Pour être dans ces années-là, Mad Max, quand il est sorti en 79, ça a fait un raz-de-marée, les gens étaient assez impressionnés. Et puis, il y a eu des avis différents par rapport à la violence qu'il y avait vraiment graphique au cinéma. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était un peu compliqué de se dire, bon, on laisse tomber les tabous et on montre ce qui peut arriver si on ne change pas les choses.
Mais c'était un peu un reflet de la société d'antan. La violence, c'est le thème du film, c'est même le thème de la saga. Donc, quelle meilleure critique que de dire que c'est trop violent. Donc, ça fait le charme de tout ça. Puis, même dans ces films-là, à cette époque, c'est la même époque, je pense, qu'Orange Mécanique. C'est un peu le fait de démontrer la violence des États-Unis et de l'extrapoler un peu, mais... C'est dans un but de dénonciation.
Oui, c'était l'ouverture d'esprit. On avait aussi à la distribution Johan Samuel qui jouait Jesse Rokatansky, Hugh K. Byrne qui jouait Toe Cutter, Steve Beasley qui joue Jim Goose, Main Force, Tim Burns qui jouait Johnny the Boy, Roger Ward qui jouait Fifi, Lisa Adeoven qui jouait la nurse, donc l'infirmière. David Brax qui joue Mud Guts. Bertrand Kadar qui joue Clunk. David Cameron qui est l'underground mécanique. C'est vrai que ces noms d'acteurs et d'actrices qu'on a vus après, par la suite, dans d'autres films... C'est assez impressionnant. Et puis, on est quand même en 79 où, rappelons-le, eh bien, le cinéma s'ouvre à d'autres choses et puis permet des visions qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était plus dans le glamour, dans le paraître. Et là, c'est vraiment une force d'attaque. et pour montrer ce qui était caché.
Mais même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que les Mad Max, ils ont vraiment marqué leur époque, parce que même en 2015, quand ils sortent Fury Road, je me rappelle que ça avait fait un carton, tout le monde allait le voir. Donc je pense que ça a pas mal traversé les époques. Et puis même, moi pour ma part, je trouve pas tant violent que ça. Enfin, j'ai l'impression, oui, on voit des scènes.
Je parlais à l'époque. Ouais, à l'époque, c'était très, très porté. On se disait, waouh, oh là là, quand même. Moi, je l'ai vu beaucoup plus tard, puisqu'on n'avait pas le droit de le voir. C'était interdit au moins de 12 ans, voire plus, à cette époque-là. Et c'est vrai, je crois que j'ai dû le voir. La première fois que j'ai vu un Mad Max, je devais avoir 19 ou 20 ans. J'étais en internat, je crois que c'est ça, ouais. On s'était fait la saga des Mad Max. Et oui, enfin, au début, ça peut un peu rebuter, mais je trouve que c'est très bien fait, qu'il y a une très très belle réalisation de George Miller, qui est vraiment le papa des Mad Max, on va pas mentir, hein. C'est lui qui a fait toute la saga et qui s'y tient. Vous imaginez maintenant, il a 79 ans, c'est son bébé. Et c'est avec plaisir, oui, qu'on va voir les films. Alors, on a parlé du premier, mais on va parler du deuxième, qui a vu le jour en 1982 et qui a eu encore beaucoup plus d'impact.
Dans un futur non défini, les réserves de pétrole sont épuisées et la violence règne sur le monde. Max, un ancien de la sécurité routière, se porte au secours d'une communauté de fuyards aux prises avec des pirates de la route. La bataille se concentre autour d'une citerne de raffinerie.
Ah, c'est l'acquis du pouvoir qu'on voit dans Mad Max, puisque les ressources s'amenuisent au fil des années dès qu'on trouve quelque chose, le pétrole, tout ce qu'il peut, puisqu'il faut qu'ils se déplacent et qu'ils puissent faire les pirates de la route. Et pour être les pirates de la route, il leur faut du carburant.
Mais justement, on a l'arrivée donc du pétrole et de la place centrale du pétrole qui va être important dans tous les films suivants. On a un personnage de Max qui devient plus sombre. Je regarde ton visage, est-ce que j'ai le droit de spoiler une petite partie de la raison pour laquelle il est devenu plus sombre comme
oui, t'as le droit, c'est passé. Hein. Ouais, c'était en 82 le film, hein, donc excusez-nous, mais bon quand même, 82, il y a prescription, vas-y.
Ça va, il y a prescription. Mais du coup, le fait qu'il ait perdu sa femme et son fils, ça le rend sombre et c'est un nouveau personnage avec encore moins cette empathie que dans le premier film. Et là, on arrive pour le coup petit à petit dans l'univers Mad Max tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a déjà les lieux, cette raffinerie qui fait beaucoup penser à celle des derniers films. Et on a l'ambiance, c'est pas un désert à proprement parler avec du sable, mais c'est un décor désertique. C'est là on rentre dans l'ambiance Mad Max pour le coup.
Oui, puis encore un Mel Gibson incroyable hein, qui joue Max Rokatansky. C'est vrai que on le voit beaucoup plus sombre, complètement anéanti par ce qui s'est passé. Et c'est la haine qui a pris le devant sur ce qu'il ressentait, ce qu'il était avant, et la vengeance surtout.
Et la vengeance. Et le petit chien qui joue très bien aussi.
moi, c'est par rapport au fait qu'il y ait des batailles, notamment pour le pétrole, je trouve que ça montre bien l'époque. Alors, c'était en avance sur son temps, mais aujourd'hui, l'époque.
82, ouais.
Aujourd'hui, l'époque qu'on va avoir où les denrées, elles disparaissent de plus en plus. Et on va vers un monopole de ces denrées qui vont créer de nombreux conflits. Et donc, à cette époque-là, que je ne sais pas s'il avait prévu ou c'était juste un.
Un sacré visionnaire,
ouais,
George Miller, on va pas mentir, hein. Il y a vraiment des choses qu'il a mis dans ses films où tu te dis quand même, ça fait froid dans le dos parce que tu te dis non, je veux pas arriver jusque là, mais il y a quand même pas mal d'années qui sont passées depuis 79 et on voit qu'il avait pas si tort que ça parce qu'il y a des choses qui se passent et tu te dis si ça continue comme ça, on risque de tomber malheureusement dans un monde dystopique. C'est pour ça, en fait, qu'il tire aussi la sonnette d'alarme aux années, où il se dit « Bon, moi, je continue mon petit chemin avec Mad Max, mais petit à petit, je mets d'autres choses, je mets l'écologie, je mets plein de choses dedans qui permettent ce côté-là. » Dans le dernier, par exemple, dans Furiosa, il a axé beaucoup sur l'écologie par rapport à cette plaine verdâtre, ce paradis terrestre qui est caché et qui regorge de choses de notre époque et qui n'existe plus malheureusement pour d'autres et où il y a des plaines désertiques et où ils recherchent justement l'eau potable, cette eau claire qu'il y a dans ces ruisseaux, dans ces plaines verdâtres et abondantes, avec des animaux, avec des fruits, de tout ça. Donc c'est vrai que au fur et à mesure, voilà, il explique, il dit c'est comme ça maintenant. Et juste après, le plan d'après, on se retrouve dans un truc désertique ou tout, où ils ont tout perdu, où ils doivent se battre pour un petit truc, alors que l'eau, elle est vraiment, quand tu vois l'eau, tu dis « Wow !» Ils se battent pour cette eau-là. C'est pour ça que tu vois tous ces côtés-là. Et à chaque fois, à chaque Mad Max, et dont le 2, où ils portent là-dessus et ils montrent vraiment oui, voilà, les premières forces du pétrole et du fait d'acquérir le carburant pour pouvoir se déplacer et puis être maître de la situation et gouverner les autres par ce fait-là. Parce que si vous voulez faire ci, vous avez besoin de ça. Donc, vous êtes demandeur, moi je suis offreur, mais ça ne va pas être gratuit, les gars. Donc, soit vous écoutez et vous suivez le pouvoir, soit vous vous rabaissez et vous n'avez rien. Et donc, c'est vrai qu'il montre ces pans-là. Il est très, très fort là-dessus. Et puis, il a encore un excellent casting. Hein, Bruce Spence qui joue The Giro Captain. Michael Preston. Michael Preston, quoi. Papa Gallo. Max Phillips, Toddald. Vernon Wells qui joue Wes. Cajil. Voilà. Cajil Nielsen qui joue The Unmingus. Emil Minty qui joue The Feral Kind, Virginia Hay qui joue la Warrior Woman, ça on l'aime bien, William Zappa qui joue Zeta, Arki Whittley qui joue The Captain's Girl et Tyler Copin qui joue Defiant Victim. Donc c'est vrai que voilà, George Miller, il arrive toujours à nous faire un super casting, à nous emmener dans son monde. Et même si c'est violent, même si il y a vraiment, c'est très très fort parce que le personnage de Max est très sombre. Et puis on le sent vraiment dans son regard, dans sa façon d'être, dans sa gestuelle, que il n'est pas là pour enfiler des perles. Et ça, ouais, ça fait froid dans le dos. Et en même temps, c'est très fort. C'est pour moi. C'est un de mes préférés parce que je trouve qu'il y a vraiment une ouverture sur justement ce pouvoir du pétrole et aussi l'axe sombre du personnage de Max. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Oui, c'est sûr. Le personnage de Max, il prend une nouvelle ampleur. Et en fait, là, il est tout seul. C'est ça qui est le différencié du premier. Il est tout seul avec son chien, bien sûr, au départ. Et donc, sa solitude l'amène à devoir survivre au lieu de vivre. Et c'est dans cet esprit-là qu'il devient Mad Max.
On va continuer avec le troisième. C'est Mad Max au-delà du dôme du tonnerre.
Max, de retour, s'est fait dépouiller de son maigre bien. Suivant le voleur, il arrive dans la ville du Troc où règne Entity. Celle-ci l'engage pour qu'il débarrasse de Master et Buster. Roi du monde souverain. N'ayant voulu tuer Blaster, Max est abandonné en plein désert, d'où il ressurgit à la tête d'une troupe d'enfants pour faire exploser la ville du Troc.
Cette fois-ci, c'est une co-réalisation. George Miller est assisté par George Ogilvy. Alors, ça m'éclate de dire assisté parce que c'est aussi un grand réalisateur, George Ogilvy. Mais voilà, il co-réalise le film avec cette ampleur, avec ce côté vraiment désert qui arrive et qui montre ce qui va se passer dans les autres films.
Mais là, on rentre dans la dystopie totale. Il y a le monde qui a été anéanti par une guerre nucléaire. Le désert est là, l'ambiance est là, l'excentricité des personnages, elle a passé un cap, je trouve, dans ce film. On a une Tina Turner incroyable.
Ah ouais, Entity.
Ouais, phénoménal. Et là, oui, on a passé un cap. Là, pour moi, c'est l'entrée dans ce qu'on a aujourd'hui.
On est en 85, hein, si je ne me trompe pas. 1985, le troisième, donc il y a quelques années qui sont passées. Et puis, ce côté féminin qui prend le dessus, cette femme entité qui dirige ce cartel. Et franchement, chapeau bas, parce que le travail qui a été fait par Tina Turner. C'est vrai qu'au début, quand on voyait l'affiche, on se disait « Oh, quand même, Tina Turner. » Bah là, il n'y a rien à dire. Je pense que...
Rien à dire.
Elle est vraiment excellente. Elle est épaulée par Adam Kerben, qui joue Jedidiah Jr., par Bruce Spence, qui joue Jedidiah, par Paul Larson, qui joue Blaster, Angelo Rosito, qui joue Master, Angry Anderson, qui joue Iron Mar, et Edwin Hodgeman, qui joue le docteur Dilgood. Un sacré casting, là encore. Et puis, bien sûr, hein, Mel Gibson. On retrouve Mel Gibson en Mad Max contre Entity, qui lui en fait voir des vertes et des pas mûres.
Et même Mel Gibson, il y a son apparence qui change dans ce film. Moi, je pense, personnellement, c'est le rôle de Mel Gibson, c'est dans ce film-là que je le préfère. Et il a une interprétation... Qui est excellente, et voilà, moi j'ai bien apprécié.
Le monde vient de subir l'épreuve du feu, et seuls les plus grands guerriers et leurs plus mortels ennemis sont sortis vivants du brasier.
Qui es-tu?
Personne.
Monsieur, j'en suis certain. Les dés sont jetés.
Il est celui qu'on appelle le guerrier.
Mais il a l'air d'un vagabond.
Mais pour ceux dont la vie est en jeu...
Nous sommes ceux qui attendent.
Qui attendent quoi?
Qui t'attendent, toi?
Il est celui qu'ils appellent le héros.
Mesdames et messieurs, mes très chers enfants, votre dernière heure est arrivée.
Aujourd'hui, Mad Max est de retour dans Au-delà du dôme du tonnerre. Mel Gibson, Tina Turner, dans Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre.
Et bon, on en est déjà au quatrième, hein. Et le quatrième, je crois que c'est le must de must, il y en a beaucoup qui en parlent, et d'ailleurs, je trouve ça excellent, parce que sur Canal+, vous pouvez le voir, et normal, en colimétrie normale et en black and chrome. En black and chrome, franchement, ça vaut le détour. Oui, c'est noir et blanc, un peu plus travaillé. Mais alors, franchement, le boulot qui a été fait sur le black and chrome, moi, je ne l'avais jamais vu. Moi, j'avais vu en couleur Fury Road et chapeau bas. Hein. Encore George Miller, voilà, il y a de super idées. Donc, n'hésitez pas... Hein, à voir la version black and chrome. Mais on va écouter le synopsis.
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'impérator Furiosa. Il fuit la citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement.
Ouais, alors là, c'est impitoyablement, je pense que c'est vraiment le mot, hein, parce qu'il y a des scènes très, très violentes. On est en 2015, donc c'est 30 ans, ouais, c'est ça, après le troisième. Donc là, il y a eu vraiment une grande envergure. Et puis, il faut le dire quand même, les décors sont réels, ils sont dans un véritable désert, et ils ont fait des scènes incroyables, ce qui a donné des résultats pas top pour le désert, parce que ils ont un peu pourri le désert avec les couleurs, avec tout ce que vous voyez dans le Fury Road, mais ça donne vraiment ce côté réalisme et ce côté très fort. Alors on retrouve Max Rokatansky, mais ce n'est plus Mel Gibson, c'est Tom Hardy qui a pris la place avec une Furiosa incroyable jouée par Charlize Theron, un sacré duo, je ne vais pas mentir, où Ils s'en font voir quand même des vertes et des pas mûres tous les deux, même si des moments ils sont alliés, ils sont ennemis, alliés, ennemis, on ne sait pas trop. Et il y a vraiment un potentiel énorme. Avec eux, il y a Hugh K. Byrne qui joue Immortan Joe, Nicolas Hoult qui joue Nux, Rosie Huntington qui joue Splendid, Riley Keough qui joue Capable, Zoe Kravitz Toast, Courtney Eaton qui joue Shido, Abby Lee qui joue The Gad, John Hellman qui joue Slit et Nathan Jones, Rictus Erectus. On m'a toujours fait rire celui-là, sauf qu'il ne me fait pas rire dans le film, il est horrible. Et on est encore dans un monde de pouvoir, dans un monde où c'est décidé avec ces filles qui sont un peu traitées comme de la marchandise d'esclavage, mais pour la reproduction cette fois-ci.
C'est ça. Moi, le film Fury Road, je pense que c'est celui que j'ai le plus apprécié de tous. Déjà, les décors, bon, désolé pour l'environnement, c'est à ne pas refaire.
Non, c'est carrément, il n'a pas eu le droit pour le dernier. Oui. Hein,
Dieu merci, mais bon, ça a été fait, donc on ne peut que contempler. Et la différence est folle. L'effet de poussière, etc., on voit la
c'est
réalité.
Magnifique. C'est magnifique, bah oui.
Et quand on voit Furiosa, on voit vraiment la différence avec le sable, et mine de rien, ça y joue. C'est un très très bon film. Beaucoup de scènes d'action, là l'action elle prend une ampleur supplémentaire, mais dû aux avancées technologiques, je pense, et à plein de choses.
Ouais, et puis ce camion.
Et oui, ce camion.
Ah, ce fameux camion, quoi. Mm. Excellent, avec toutes ces armes cachées, toutes ces trucs, et puis les personnages qui sont dessus, enfin, c'est hallucinant.
Oui, c'est fou. Et même les méchants qui ont un charisme dingue, Immortan Joe, etc.
Et, complètement barré. complètement barré, mais avide. Totalement.
Ouais, effrayant, tout de même.
Complètement effrayant. Votre manière, il a cette touche des méchants manipulateurs et complètement égocentriques. Et qui se gavent de pouvoir, quoi. Qui sont là pour la peine du pouvoir. Et s'il faut tuer 30, 40 de ces soldats, ils s'en tapent complètement.
Ouais, c'est ça. C'est l'avidité à son paroxysme. Mais c'est très bien amené. Puis c'est une réussite, une franche réussite. Il y a de la violence, il y a du Mad Max, il y a tout ce qu'on aime dans cette saga.
Et puis il y a une super Furiosa. Badass, et puis voilà ce côté de Charlize Theron qui est incroyable. On lui demande beaucoup de choses dans ce film. Il y a eu des cascades dantesques. Bon, elle n'a pas tout fait, mais c'est vrai qu'il y a des cascades vraiment fortes. Et puis on est propulsé dans ce monde-là et on vit avec eux. On ne voit pas passer le film, sans mentir. Non ? Qu'est-ce que t'en penses, Yanis ?
Non, globalement, le film est vraiment bien réalisé. On est vraiment pris dans l'action. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a très peu de dialogue entre les personnages.
C'est vrai.
Donc des fois, c'est ça qui peut être aussi bien dans des films comme ça, où on a un petit peu de dialogue et on arrive plus à s'attacher aux personnages. Même si on voit que Mad Max, par le biais des flashs qu'il a, on voit que c'est quelqu'un de très perturbé, et donc ça joue et c'est plutôt bien fait. Mais sinon, entre les personnages eux-mêmes, on a moins de dialogue et c'est un petit peu dommage. Parce qu'après, sinon, la partie action et histoire est très bien réalisée, ça va dans tous les sens, donc ça c'est vraiment très, très, très sympathique.
Ouais, puis c'est bien ficelé, c'est vrai, ouais. Que c'est fluide, on est vraiment dans l'action, on suit tout, on se pose pas de questions. On est vraiment pris dans le fil. Oui, c'est vrai que les dialogues sont très pauvres dans ce film, mais je sais pas, moi ça m'a pas trop gêné.
Moi, pour le côté dialogue, ce qui a rattrapé le coup et le fait que ça m'a pas gêné, c'est le charisme de cette muselière sur.
Oui, tout à fait.
Sur Max.
Mais oui, il peut pas parler.
Oui, il peut pas parler, mais c'est tellement ça ajoute tellement un truc au personnage. Je la trouve incroyable, cette muselière.
Ouais, c'est vrai qu'elle est très forte. Les 4 films sont à retrouver sur Canal+. Si vous avez l'abonnement Canal+, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver les 4 films, dont, je le rappelle, Fury Road en version Black and Chrome. Vous avez le choix entre les deux versions, mais franchement, faites-vous un kiff et regardez-le en Black and Chrome. vous m'en direz des nouvelles. Et puis, le dernier en date, le cinquième, Furiosa, et oui, qui vient de sortir au cinéma, qu'on a tous été voir aussi. Et bah, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes parce qu'il y a Furiosa qui est le préquel de Fury Road.
Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre de la désolation à Immortan Joe et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance.
La vengeance, ouais, c'est vrai. On voit la jeunesse de Furiosa. Alors Fury Road, voilà, c'est la guerrière, l'impérator, et elle dirige son camion, et on voit tout ce qui se passe tout au long du film. Et là, on revient en arrière, on revient à la jeunesse. D'où vient Furiosa ?
Exactement. Donc on part à la découverte d'un nouveau personnage, ce n'est plus Max, c'est Furiosa. Et c'est un personnage qui a tout son complexe, qui est compliqué, qui a un background, comme on dit. On en apprend plus sur sa vie. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on en apprend plus sur Fury Road aussi, au final, en regardant ce film-là. Il y a toujours la même dose d'action, c'est toujours très bien amené. Il y a un nouveau méchant en la personne de Dementus qui apporte une notion un peu plus rigolote, un peu plus comique.
Ah oui, t'as trouvé ça rigolo, toi?
Ouais.
J'ai trouvé hyper cruel quand même, hein. Même s'il était drôle.
Ouais, mais cruel avec un humour noir, mais assez. Il est à la fois très enfantin et très horrible, je trouve.
Ouais, il est joué par Chris Hemsworth. Et moi, j'aime bien comment il est vêtu, parce que ça m'a beaucoup fait penser au personnage de Thor. Je sais pas pour vous, il y a des petits clins d'œil avec la cape rouge, tous ces trucs-là.
Ouais, c'est vrai, puis la coupe de cheveux, etc. Puis même le carrosse dans lequel il se balade, c'est tout le temps...
Oui, c'est ça.
C'est un char tiré par plusieurs motos, donc ça assoit son côté... C'est vrai, en fait, il fait très grec, il fait très, très chef grec,
romain.
Même dieu grec ou romain.
Très romain, César,
pardon,
en fait.
C'est ça.
Il se la joue à la César, Dementus. Il est l'empereur romain. Qui veut conquérir les villages, enfin on va dire les endroits qui ont potentiellement du pouvoir, comme le carburant, qui peut faire des armes, qui a la nourriture pour subvenir aux besoins, l'eau, la nourriture. Et voilà, donc lui, son but, c'est d'être l'empereur et Vini, Vici, Vini. Il veut gagner, il veut remporter et tout amasser. Et il le fait bien comprendre. Et il se retrouve avec Furiosa, qui est jouée incroyablement par Anya Taylor-Joy. Et franchement, c'est pas évident de reprendre un rôle tel que Furiosa. Et elle mène bien sa barque. Je voudrais parler aussi de la petite jeune qui joue Furiosa pendant 45 minutes du film, où on la voit vraiment la petite fillette qui grandit petit à petit et qui est aussi très très forte.
C'est vrai, parce qu'au final, il prend cette partie-là là, qui se passe dans l'enfance de Furiosa. Elle dure longtemps, mine de rien.
Ah bah oui.
C'est quoi, peut-être 40 minutes, non? Quelque chose comme
45
ça.
Minutes.
45 minutes. Et donc, dans ces 45 minutes-là, la petite fille, c'est l'héroïne principale. Et elle tient le rôle à merveille. Elle se débrouille beaucoup. Et puis on en apprend beaucoup sur l'histoire aussi.
C'est Alila Brown qui joue le rôle de Furiosa jeune. Et franchement, elle ne démérite pas, quoi. Parce que c'est énorme. Les répliques qu'elle a avec Chris Hemsworth. C'est hallucinant tout ce qu'elle peut véhiculer et même qu'on la voit d'une certaine stature, on a l'impression qu'elle est plus grande que son âge. C'est ça qui est très fort. Alors sûrement que l'actrice en question est peut-être plus âgée par rapport au rôle, mais je pense que c'était vraiment bien amené et il faut tenir 45 minutes sur un film avec l'aplomb qu'elle a. Donc franchement, chapeau bas à cette jeune qui est à suivre. Je pense qu'elle est vraiment à suivre. Et on a aussi Yala Abdul Maté, Tob Burke, Angus Samson. Ben, on retrouve Nathan Jones, hein, Rictus et Rictus. Vous avez Caden Bell, Daniel Weber, Goran Declud, C.G. Blundfield et Lachie Ulm. Et c'est vrai qu'on a des personnages très forts. Encore, George Miller a fait un sacré boulot. Alors, on le disait, il n'a pas eu l'autorisation d'aller tourner dans le désert. Et il y a dû y avoir des effets spéciaux à tire-larigot, malheureusement, pour pouvoir donner la dimension qu'avait Furiosa. Et bah, ça se ressent. Il y a un côté de réalisme, malheureusement, qui manque, même si les effets spéciaux sont dantesques.
Les effets spéciaux sont fous. Après, moi, personnellement, j'ai toujours du mal avec les films entièrement faits sous fond vert. J'ai adoré le charme du sable de Fury Road. Là, c'est vrai que quand ça roulait, on voyait que la poussière ne faisait pas non plus... C'était extrêmement bien fait, hein, mais on voit toujours la différence avec la réalité dans tous les cas.
Ben oui.
Mais après, oui, c'est bien fait. Et c'est pour le bien de la planète. Donc,
Oui, tout à fait. Bah oui, oui, on part pourrir un autre désert, quoi.
C'est
parce
vrai,
que,
ça, ouais.
Parce que ça, c'est une galère. Alors, il y a des personnages, je ne sais pas s'il y a des personnages qui vous ont plus touché que d'autres ou vous avez dit, waouh, il est vraiment bien fait.
Mais moi, justement, c'est un peu bizarre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Dementus. Parce que justement, comme l'a dit Mathis, il a un côté drôle, sarcastique. Et c'est vraiment ça que j'aimais. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une attache avec lui, alors que c'est pas forcément, c'est pas à celui qu'on pense quand on pense à un personnage qu'on s'est attaché, quoi.
Ah bah non, parce qu'il a été vachement cruel avec Furiosa, hein. Je sais pas si vous vous souvenez d'une scène avec un certain feu, mais moi je m'en souviens. C'est pas une scène, c'est pas un film à mettre dans toutes les mains. On va pas mentir. Franchement, respectez les interdictions.
Mais c'est pas une saga à mettre dans toutes les mains.
Ouais. Non, carrément pas. Carrément pas. Non, mais je veux dire, là, au cinéma, voilà.
Oui.
Si c'est interdit moins de 12 ans, c'est ça, si je me trompe pas, c'est qu'il y a une raison. Et franchement, il y a des scènes graphiques, même si on voit pas tout, on sait. Et il y a certaines personnes, même qui avaient 12 ans et plus, et qui se sont cachés les yeux dans ma salle. Donc, voilà, faites attention quand vous emmenez des jeunes, quoi.
Ouais, moi aussi, j'avais une jeune à côté de moi qui s'est cachée les yeux. Pendant
que elle est dans le studio, c'est ça?
Ouais,
tu t'es caché les yeux,
ouais.
C'est vrai,
ouais.
Lydia, il y a des scènes qui t'ont, t'ont percuté?
Ouais, en fait, c'est surtout les scènes qui me dégoûtaient personnellement. Par exemple, la scène où Furiosa, elle a son bras qui...
Ah oui, 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 d'accord. Okay.
Ça, je me suis sentie très très mal, j'ai pas pu réellement regarder, quoi.
C'est vrai que cette scène est forte aussi, hein, quand ils se font attraper et tout, là où tu te demandes ce qui va leur arriver, quoi.
Ouais, puis quand on a vu Fury Road, on se demande en fait quand est-ce qu'elle va arriver cette scène. Et donc moi j'ai bien aimé.
Mais cette scène elle est forte aussi parce que ça permet aussi de voir l'évolution du rôle de Furiosa. Parce qu'on la voit enfant, on la voit chercher et puis après... Elle doit devenir quelqu'un d'autre. Elle doit masquer sa féminité pour pouvoir vivre. Parce qu'elle s'enfuit, elle a réussi à sauver. Et donc, bien, elle va rentrer dans la peau d'un personnage. Et puis, petit à petit, elle va remontrer sa féminité tout en gardant ce côté guerrière et ce côté masculin qui la protège. Et ce rêve fou qu'elle a sur son bras, l'indication pour rentrer chez elle. On la sent abandonner ce côté-là, ce côté de retour chez elle potentiel, quand justement elle s'arrache son bras. C'est vrai que c'est très fort parce que la progression du personnage est assez incroyable et ce qui nous amène, bah ouais, ce qui nous amène à ce qui va se passer dans Fury Road. Et même la fin de Furiosa est excellente. On dira pas ce qui va se passer, mais franchement, restez jusqu'à la fin parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. On se demandait ce qui allait devenir un personnage et quand on voit ce qui devient de lui, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué.
Ouais, c'est vrai. Avec mais cette question, je vais rester vague. Donc,
d'intérêt, ne spoil pas.
Mais il y a un élément qui, depuis le départ du film, est présent. Et on voit qu'il est important parce qu'il ressort à plein d'endroits. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va en faire?
Et pourquoi, oui.
Et pourquoi
c'est hyper important.
Et on peut faire toutes les suppositions que l'on peut. Je ne pense pas que quelqu'un ait pu trouver ça.
Non, c'est très bien amené, c'est très bien fait. Et puis voilà, il y a ce côté rage, ce côté vengeance qui prend le dessus chez Furiosa, comme pour Mad Max, en fait. Ce côté rage, ce côté vengeance qui perd de vue ce qu'elle avait comme idée avant, son rêve idyllique de rentrer chez elle. Donc c'est vrai que voilà, c'est très fort. Donc jusqu'où va sa vengeance? Jusqu'où ça va aller? Ben voilà, rendez-vous dans les salles de cinéma pour découvrir Furiosa. Yanis, tu as quelque chose à nous dire sur Furiosa pour donner envie justement aux personnes d'aller le voir?
Ben, la chose la plus importante, c'est que dans Fury Road, on n'a pas grand-chose par rapport à la vie de Furiosa. Alors que c'est un personnage principal, on s'y attache vite parce qu'on comprend qu'elle est un peu comme Mad Max. Ils se ressemblent beaucoup, c'est pour ça que les deux personnages vont très vite devenir amis, entre guillemets. Et justement, qu'on puisse avoir la vérité totale sur ce qu'elle a vécu, pourquoi à un certain moment elle trahit Immortal Joe. En fait, ça permet qu'on comprenne un peu tout et qu'on puisse encore plus aimer ce personnage et surtout à sa juste valeur.
Ouais, c'est vrai, puisque Immortal Joe, il est quand même entouré de ses deux fils et ils sont vraiment très horribles. Alors, un côté plus du côté, oui, harcèlement, viol, et puis je prends, c'est mes choses et j'en fais ce que je veux. Et de l'autre, c'est plus les personnes, si je veux arriver à mon but, j'y arrive. Et en fait, Immortal Joe, c'est un mix des deux et puissance 10. Donc, on comprend, oui, les tenants et les aboutissants pour Furiosa et ça nous permet de s'attacher encore plus au personnage. Et croyez-moi, quand vous regardez Fury Road derrière, vous êtes à fond dedans, même si ce n'est pas la même actrice, vous êtes à fond dedans. Donc, il est actuellement au cinéma, vous pouvez le voir bien sûr au Pathé Wilson en Dolby, à la Beige en 4DX ou en IMAX, et au Cégère Blagnac en Ice.
Mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris.
À qui avons-nous l'honneur?
Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée.
Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Je veux qu'on me les rende. Je veux qu'on me les rende! Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Protège la terre verte.
Nous allons prendre ce qui nous revient de droit! À vos marques! Il n'y a aucun espoir!
Si tu le trouves, il est à moi.
Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde.
Tu te souviens de moi ?
c'était Chaud Devant Ciné, la saga Mad Max. Merci Yanis, Mathis et Lydia pour ce retour.
Avec plaisir.
Merci à toi.
Et puis bah, retrouvez donc les 4 films sur Canal+, sur Prime Video aussi je crois. Et n'hésitez pas à vous rendre au cinéma pour voir Furiosa. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back.